C'est au sujet de la communion. Nous communions au corps et au sang du Christ à travers du pain transfiguré, du pain qui est porteur du corps du Christ de manière à être pour nous une nourriture pour faire croître en nous qui avons été baptisés le corps du Christ sur lequel nous avons été greffés par notre baptême. Mais nous communions aussi au sang du Christ à travers du vin transfiguré en sang du Christ. Mais il me semble qu'il faille préciser que quand on communie au corps du Christ, au pain consacré, c'est à la chair du Christ, c'est-à-dire chair et sang, c'est vraiment tout ce qui fait le corps du Christ, y compris son âme, si vous voulez. C'est à tout l'être du Christ que l'on communie. Et quand on parle du sang du Christ, ce n'est pas le sang fait de globules blancs ou rouges et de sérum. Le sang du Christ, le sang dans la Bible, représente le siège de la vie, autrement dit la vie elle-même. Ce qui veut dire que quand on communie au sang du Christ, on communie à la vie du Christ. Le corps, le sang du Christ ressuscité, on l'a parce qu'on communie à son corps. Mais Dieu nous permet aussi de participer à sa vie, à la vie de Jésus. Nous sommes greffés sur son corps, n'est-ce pas? Nous sommes greffés sur son être par le baptême. Eh bien, pour reprendre encore ce symbole, voyez un greffon d'arbre fruitier mis sur une souche. Le greffon amène quelque chose à la souche, un perfectionnement par exemple dans la qualité du fruit qu'on veut obtenir. Mais pour porter du fruit, il oublie, si je peux lui attribuer des sentiments évidemment, il oublie d'une certaine manière qui il est pour prendre la sève qui n'est pas la sienne, mais qui est la sève de la souche sur laquelle il a été greffé, dont il se nourrit et qui s'épanouit en donnant des fleurs et des fruits conformes à la souche sur laquelle il a été greffé. Mais lui n'existe plus par lui-même directement, il n'est pas un individu, il ne se démarque pas du reste de la souche, mais n'empêche que le greffon reste bien le greffon. La nouvelle branche reste une nouvelle branche, mais qui fait partie intégrante du seul arbre sur lequel il a été greffé. Je sais pas si mon explication est claire, mais il en va de même pour nous avec le corps du Christ. Notre vie se passe, n'est-ce pas, à que dans notre communauté, vous connaissez, parce qu'on en parle souvent, à la kénose du Seigneur et à notre propre kénose en communion à la sienne, c'est-à-dire au renoncement de notre volonté, de notre individu, si l'on peut dire, pour, tout en restant des personnes distinctes, nous assimiler à l'unique corps du Christ, donc nous assimiler les uns et les autres par notre charité, par notre entente, par notre communion, pour nous assimiler en un seul corps. Eh bien, tout ce corps-là, toutes ces branches, tous ces sarments que nous sommes, ne sont qu'un être, le corps du Christ. Mais il faut encore, si nous sommes l'unique corps du Christ, que nous participions évidemment à sa vie. Non pas à sa vie biologique, mais, je sais pas comment on peut dire, sa vie événementielle, si je peux dire, à son attitude intérieure. Et de même que le Christ a, par amour pour l'homme qui s'était perdu, est venu reprendre sur lui cette nature déchue qu'il assume pour lui donner, lui communiquer sa sève, lui communiquer sa vie, et sa vie est divine et humaine, mais divine aussi. Et il nous communique donc sa divinité. De même, parce que nous participons à sa vie, nous abandonnons aussi volontairement, et quelquefois involontairement, nous abandonnons aussi quelque chose de notre être, de notre individu, qu'on appellerait notre volonté propre, notre volonté individuelle, notre volonté égoïste ou égocentriste, de manière à ne vivre que de sa vie et de la vie des autres. Et de cela découle tout l'évangile, y compris la charité les uns avec les autres et avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui sont dans le besoin, y compris le support de notre maladie, y compris l'acceptation des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ou dans lesquelles nous serons demain, voire jusqu'au martyre et jusqu'à la cèse personnelle. Tout tourne autour de cela. Tout le mystère de notre vie avec Dieu et de la vie sacramentelle tourne autour de cela. Et justement, puisque communiant au sang du Christ, donc à sa vie, nous avons la même vie, nous avons sa vie. Je dis pas une vie semblable à la sienne, parce qu'une vie semblable, ça veut dire une vie comme, mais en dehors de lui. Moi, j'ai une vie semblable à celle des chats et des vaches, hein. On est des mammifères, on se nourrit, on a beaucoup de points communs, mais ça, c'est une vie comme. C'est pas une vie de communion. La vie de communion, c'est vraiment que la vie de l'autre est ma vie, comme ma vie est la vie de l'autre. Et nous avons cette intimité-là avec le Christ. Et vous connaissez, et vous devez connaître, quelle est sa vie à travers la lecture des évangiles et à travers votre humble expérience personnelle. Car si le Christ vit en vous, et si vous vivez en lui, vous avez ainsi l'expérience de la vie du Christ. Et votre expérience intime, même si vous n'avez pas, et moi non plus d'ailleurs, la possibilité de l'exprimer ou de le ressentir avec des analyses intellectuelles qui risqueraient de tout casser à ce moment-là dans notre relation. Mais cette vie commune que vous connaissez et devez connaître du Christ, vous pouvez voir que vous êtes appelé à la partager. Le Christ, n'est-ce pas, je vais pas reprendre tout l'évangile d'un bout à l'autre, bien sûr, mais le Christ est né d'un embryon, devenu embryon avant de naître. Il en va de même pour vous et pour moi aussi. Je ne révèle pas de secret en disant ça. Le Christ a appris la vie, il a appris les saintes écritures, il a été dans les écoles juives, à la synagogue, il a appris. Et vous apprenez aussi les lettres et la vie de Dieu à travers la révélation, à travers les évangiles, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Christ a dû prendre des décisions dans sa vie, et vous aussi vous prenez des décisions dans votre vie. Et par votre prière, vous pouvez faire en sorte que les décisions que vous prenez seraient les décisions que le Christ prendrait s'il était à votre place. Or, il est à votre place. Donc, vous prenez des décisions au nom du Christ. Si on dit au début de nos prières, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est parce que véritablement, nous vivons au nom, à la place, ou en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, pour aller directement à la fin de la vie terrestre du Christ, il a été injustement condamné, et vous, il vous arrive pas d'être injustement condamné par des calomnies, par des médisances, par des méchancetés, par la bassesse des hommes, pratiquement ou tacitement, mais on a tous à souffrir de cela. Eh bien, quand on souffre de ça, on le souffre, c'est le Christ qui souffre cela en nous, et nous le souffrons en communion avec lui. Et il a souffert aussi physiquement, il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué. On le voit avec la Samaritaine se reposer sur la marchelle du puits parce qu'il est fatigué. Il était certainement là, on le voit quelquefois là, du verbe lasser. Il est là de l'incompréhension des apôtres et des disciples sur ce qu'il est. Homme mini-croyant, il leur dit quelquefois. Mais enfin, depuis le temps que je vous explique, depuis le temps que je vous montre, vous n'avez pas encore compris. Et nous, est-ce que c'est pas notre lot quotidien d'être justement là aussi, devant les, je ne vise personne avec mes gestes, hein, mais en voyant les erreurs, les errances des uns et des autres et de ceux qui nous touchent le plus ou de nous-mêmes d'ailleurs. Et puis ceci s'est achevé par la souffrance morale, l'abandon total, la déréliction et finalement la croix et la mort. Et nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à accepter, à être confrontés, pardon, à la souffrance. Mais notre souffrance est une participation à la souffrance du Christ. Il a pris notre souffrance avant nous et il nous donne en échange la force de supporter la souffrance et la maladie. Et sans aucune exception, tôt ou tard, nous serons aussi confrontés à la mort, évidemment, au dépouillement total, à la remise de notre esprit, c'est-à-dire d'une vie qui ne sera pas enlevée, mais d'une vie qui, lorsque le don nous en sera suscité, sera un acte, ou devrait être un acte libre de notre part. Seigneur, je te remets mon esprit. Avec tout ce que, humainement parlant, ça demande de renoncement, tout ce qu'on laisse dans nos affections, tout ce qu'on laisse dans nos projets, dans tout ce qui est irréalisé, et même ce qu'on laisse de notre propre mémoire, car on sait bien que petit à petit, on sera oublié et on va redevenir, à vue humaine, réduit à néant. À part quelques privilégiés, dont Abraham et quelques autres comme ça, qui sont quand même relativement nombreux. La plupart des hommes sont oubliés, on n'en a plus conscience. Et pourtant, ils vivent, parce que justement, et j'en arrive là à l'épisode de la vie du Christ que j'ai volontairement occulté, si nous participons à la vie du Christ, c'est non seulement pour ces choses kénotiques, pour ces choses de souffrance, d'abandon de soi, mais c'est aussi parce que nous communions à lui, nous bénéficions de l'autre vie qui est la sienne, de la vie divine. Et ainsi, en communion avec lui dans la maladie, non seulement nous héritons de lui la force de supporter la maladie d'une manière transfigurante, plutôt que de la supporter simplement comme une catastrophe qui nous tombe dessus et qui nous amènerait au désespoir, mais nous faisant participer à sa divinité à travers lui, il nous est donné de vivre avec lui la même réalité, c'est-à-dire de connaître déjà, alors que nous ne sommes pas encore morts, de connaître déjà, d'expérimenter déjà quelque chose de la résurrection et de la vie éternelle. Mais il nous est donné aussi, alors que nous sommes englués dans notre péché, il nous est donné par le sens du repentir que l'Esprit Saint nous communique, il nous est donné de connaître, malgré notre péché, quelque chose de la béatitude du royaume des cieux. C'est ce que nous chantons, par exemple, dans l'hymne des chérubins, déposons tout souci de cette vie. Nous abandonnons la lourdeur de notre vie et nous accédons, malgré ce que nous avons de mauvais, nous accédons à une autre vie qui est la vie éternelle et la vie de communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges, les saints et tous ceux qui sont unis à travers la liturgie, quel que soit le lieu ou quel que soit le temps. C'est la raison aussi pour laquelle le Seigneur nous dit à certains moments de l'Évangile que si nous ne balançons pas dans notre cœur, si nous n'hésitons pas, nous pourrons dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera. C'est-à-dire que participant véritablement à la vie du Christ, mais pas symboliquement, mais réellement, nous sommes capables, mais nous n'osons pas. Et quand nous osons, c'est par un jeu pour tester. Et là, ce n'est plus juste. Mais nous sommes capables de faire les mêmes choses que le Christ, parce que nous sommes le Christ. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Église, il y a le pouvoir de faire des miracles, par exemple. celui qui, en toute abnégation de lui-même, sans aucun orgueil, et sans chercher du tout à tester Dieu pour voir si la prière est réelle, si quand même, si je n'hésite pas, peut-être que ça va se faire. Mais si on ne fait pas ça, si vraiment on n'hésite pas, c'est ce qu'ont fait les saints, on peut dire à un malade, sois guéri, à un mort, réveille-toi, etc. Non pas par notre propre pouvoir, et tous ceux qui ont été thaumaturges, tous ceux qui ont fait dans l'Église, ont toujours affirmé, ce n'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est le Seigneur qui a agi. Et pour qu'il n'y ait pas de doute, souvent, personne, les moines ou les prêtres, et pas simplement eux, prenaient de l'huile d'une lampe de qui brûlait devant l'icône, et tout ça, pour bien montrer que c'était pas eux qui faisaient le miracle, mais c'était par l'intercession de leur intercession, les saints et finalement Dieu qui accomplit ce miracle. Mais nous sommes capables de le faire, non pas que nous en ayons la force nous-mêmes, mais parce que nous sommes le Christ, et reproduisant les gestes et la vie du Christ s'exprime à travers nous et réalise ce que le Christ était capable de réaliser. Mais pour cela, et je vais conclure par ça, pour cela, il faut accepter avec une totale abnégation, il faut essayer progressivement, en avançant dans notre vie spirituelle, essayer d'être limpide à la vie de Dieu, à la vie du Christ, de manière à ce que, comme saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc il faut apprendre à ne pas vivre par soi-même et pour soi-même, mais à vivre du Christ, avec le Christ et pour le Christ. Et comment on fait cela? On fait cela, d'une part, en acceptant les événements qui surviennent dans notre vie, ressentis bonnement ou malement, la mort, la souffrance, la persécution, la trahison, ne sont pas des choses qu'on le ressent d'une manière agréable, mais il faut les accepter comme étant non pas la manifestation de la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui provoque le mal, mais comme une participation avec le Christ du mal qui est dans le monde et dont on prend notre part de la croix, si vous voulez, pour soulager, comme des Simons de Cyrène, si vous voulez, pour soulager le Christ, si je peux le dire comme ça, pour porter avec lui la croix du monde en état de déchéance, de manière à ce que, à travers nous, la vie divine dans le Christ transfigure tout ça et le porte à un autre niveau, le niveau éternel. C'est comme ça qu'on peut porter nos souffrances, qu'on peut porter nos échecs, qu'on peut porter même notre péché, peut-être que je vais y revenir, et qu'on peut porter nos maladies. Ça, c'est la vie du Christ, c'est ma manière de participer à la vie concrète de Jésus, donc à sa vie humaine et à sa vie divine. Sur quoi je vous ai dit que j'allais revenir? Sur le péché. Parce que le péché, évidemment, le péché n'est pas une bonne chose, mais le péché est permis par Dieu pour dans un but pédagogique. Le péché, nous savons comment il est venu dans le monde, n'est-ce pas, avec l'histoire du premier homme des chances à laquelle nous participons par nos péchés individuels. Mais nous prions souvent pour que Dieu nous délivre de notre péché, et il semble au premier regard, puis même au deuxième, et puis je crois aussi au troisième, il semble que notre prière ne soit pas toujours exaucée et que nous conservons, hélas, quelque chose de notre péché. Est-ce à dire alors que la prière est inefficace, ou que Dieu n'a pas de pouvoir, ou que je fais obstacle, enfin que chacun fait obstacle à la vie de la grâce? Certainement en partie, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas ça fondamentalement. Fondamentalement, c'est que comme le Seigneur a assumé le mal dans le monde, en devenant homme comme tous les hommes, puisque nous vivons en communion avec lui, nous aussi, nous assumons le mal qui est dans le monde. Et chacun de nous vit ses propres passions, ses propres péchés, comme une participation à la déchéance humaine, c'est-à-dire au péché de l'homme. De manière à ce que, conservant dans notre déchéance et notre tentation du désespoir face au péché, conservant la confiance quand même en la puissance de Dieu qui est capable de transformer des pierres en pain. Il est capable, à travers notre péché, de le transformer en grâce et en signe de sa présence. Et ceci par notre repentir, par notre patience, en sachant que tout ce que nous faisons, si ce n'est pas la bénédiction de Dieu, est au moins permis par lui, il le prend et il le transfigure à sa manière, par sa croix, donc aussi par la nôtre. Et je voudrais terminer en vous disant que si vous vous sentez, ou quand vous vous sentez pécheur, la première chose est d'abord d'accepter de le ressentir et pas d'occulter, non pas de faire l'impasse, ne pas refouler la conscience de son péché, mais de ne pas en être découragé non plus, même si on y retombe trop allègrement, en sachant que ce péché-là peut être transformé en un amour plus grand pour Dieu, où au cœur de notre déchéance, au cœur de notre péché, on peut véritablement crier enfin, en toute humilité et du fond de notre cœur, « Seigneur, prends pitié de moi » ou « Abba, Père ». Et c'est quelquefois dans la conscience de notre péché, de notre misère, comme dans la conscience et la souffrance de notre maladie, qu'on peut se tourner vers Dieu, non pas simplement pour des expressions vocales, pour des prières exprimées, mais vraiment du fond de nos tripes, en disant « Seigneur, je ne comprends pas, mais je me remets à toi et fais de moi ce qui est ta volonté. » Or, sa volonté, c'est que nous soyons unis au Père et au Fils et au Saint-Esprit.